Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le Super Moscato Show.
Pierre Dorian.
Il est 16h05 sur RMC, c'est le Super Moscato Show cet après-midi avec Stephen Brun, Jérôme Pinault, Eric Dimeco et Adrien Aiguin. Vous attend au 32-16, bien sûr, sur RMC pour parler en direct avec la Dream Team. Vous pouvez parler en direct. Un mec a remporté la Champions League, Eric Dimeco.
Ah, c'est voilà. Beau.
C'est beau quand même, c'est vrai. Hein.
Un mec qui a joué au basket à haut niveau, qui n'a pas
champion
été payé
France,
partout et a joué, mais.
Championne de France, oh.
Avec une belle petite carte de visite quand même, hein.
Par contre,
quelques belles conneries aussi, si vous voulez.
Par contre, on peut lancer un appel quand même. Est-ce
bien
qu'il
sûr.
Y a peut-être un ancien gamin de l'âge de ou un peu plus jeune que Adrien qui devait avoir des posters de Steve dans sa chambre?
Ah, je suis pas sûr.
Mais on a le même âge avec Steve, Eric.
Ah bon?
Ben oui.
Mais je suis dans 80.
Ben, plus jeune alors du coup.
83.
Parce qu'il s'est moqué de toi. Il s'est moqué de toi qui avait des posters de Zizou.
Non, mais moi je. Pour moi, c'est pas une
moquerie.
C'est pas une moquerie.
Je me suis pas moqué d'Adrien qui avait des posters. Quand il avait 14 ans, ça me dérange pas. Là, il a 42 ans. Il a encore des posters de Zizou. Ça qui me dérange surtout à 42 balles.
C'est l'histoire de la France. Excusez-moi, c'est l'histoire de la France. C'est même pas du sport.
Oui. L'histoire de la France.
Bah, la victoire en 88, c'est la France.
Mais le poster du général de Gaulle alors.
Bah, moi, j'ai mis Zizou. Chacun sa passion. Vincent, il a mis les De Gaulle. Bah, moi, je mets Zidane. Voilà.
Bah, c'est comme entendez ça, quoi. Que tu compares Zizou à De Gaulle.
Eric, il a des posters de Zarawa. Il était Clara Morgan. C'est l'histoire de la France aussi.
Il les a gardés.
Et moi, j'avais des posters d'Eric Dimeco dans ma chambre.
Ah oui, ça, c'est beau.
De Chris Waddle, mais donc sur l'équipe de l'OM de l'époque, j'avais Eric dans ma chambre.
Bravo!
Mais quel âge tu as, toi, Jérôme?
C'est vraiment ça que tu me demandes là maintenant?
Vas-y, vas-y.
Ah non, mais je sais pas
46,
si on peut le dire.
46,
mais...
46, 46.
Ah,
ouais,
on a tous le même âge.
Ah oui, quand même.
Oui.
Ah,
oui, tu as toujours le poster d'Eric, non?
On a presque 20 ans d'écart, ouais.
Je l'ai plus, mais je l'ai eu longtemps. Je peux te dire que je l'ai eu longtemps, même dans ma chambre,
et
dans l'armoire.
Tu l'as remplacé par David.
Vous parlez à un mec qui a porté le maillot à poids sur le Tour de France, quand même. Hein.
Oui.
Respectez-le.
Attends. Depuis 3 minutes, il a la souris dans la main. Il est parti regarder le palmarès de Jean Pinot.
13 participations au Tour, monsieur Pinot. T'imagines, toi, dans ta vie, on te dit tu vas faire le Tour de France, c'est vertigineux.
Ça m'intéresse pas, c'est trop dur.
C'est pour ça que je te dis ça.
Pierre Dorian avec le poster de Che Guevara.
Attends, mais tu les as tous terminés, Jérôme, les tours. Hein.
13 tours, 13 terminés.
13 tours, 13 terminés.
Jamais abandonné.
Jamais.
Bon, c'est fort, ça, par contre.
Bah oui, c'est fort.
Ben oui, c'est beau.
Tu as fait des chutes et tout ça, tu étais amoché à un moment donné, mais.
Ouais, j'ai été amoché, j'ai perdu un proche pendant l'un de mes tours de France, et ouais, j'ai eu à peu près tout, puis j'ai fini à chaque fois. Ouais.
Bravo, Jérôme.
Alors, le programme de l'après-midi.
Vous pouvez appeler Pierre Dorian, qui est latéral droit du Média FC.
Ouais, il y a des gens qui ont un poster de moi dans leur
chambre. Ouais, Pierrot.
Ah bon,
latéral droit. Latéral droit dans une équipe loisir, tu le mets là, Eric, normalement, tu mets là où tu sais de moins bon joueur.
Moi, je l'ai vu jouer.
Latéral droit dans une équipe de foot loisir, tu le mets pas sur le CV, ça c'est sûr.
Non, mais en plus, c'est en général le joueur où tu sais pas le mettre, tu dis bon, on va jouer arrière droit.
J'ai eu le privilège de le voir jouer, moi, voilà. Jérôme.
Ça joue bien.
Je fais des belles
bien.
Touches quand même, non?
Il paraît que ça joue.
Non, mais franchement.
Le geste technique de la touche, il est maîtrisé quand même.
Je suis venu 3 fois vous voir, me suis disputé 2 fois avec les adversaires, donc je suis plus venu.
Il n'y a pas un joueur adverse qui a dit toi, de toute façon, t'es Eric, t'es mauvais au foot, Dimeco.
Non, il m'a dit, ouais, je sais pas ce qu'il m'a dit par rapport à Ronaldinho à un moment donné, je sais pas, là, le mec. Je sais pas pourquoi je déconne, moi, au bord de la touche. Putain, il était énervé, c'est le supporter du PSG, donc il m'a chambré, je sais plus ce qu'il m'avait dit.
Allez, au programme. Montpellier, d'abord, comment ne pas faire un complexe d'infériorité face à Toulouse, Vincent, non, mais le Moscato Show règle le problème. Oui,
ça sent, il a pris un jour de repos.
Pour pas le régler le problème, il s'est
voilà. Et puis l'équipe de France de foot à 17h, Dembélé. Croyez-vous à la théorie du ketchup? Vous l'avez tous, la théorie du ketchup, c'est bon?
Oui, ça y est, on l'a.
Oui,
c'est assez imagé.
Oui,
ouais.
Oui.
Ouais, mais peut-être
on va passer temps, sinon Eric va dire.
Le journal moyen. Deuxième édition.
Moi, j'ai une autre théorie, mais bon, je suis pas sûr que ça.
16h45,
le journal moyen, deuxième édition. Restez bien là parce qu'il s'est passé plein de choses. C'est bien la radio la nuit sur RMC pendant France-Irak. Vous vous souvenez de l'altercation Riolo-Bribois hier que je vous comptais? Eh bien, altercation en pleine nuit entre Jean-Louis Tour et Gilbert Bribois.
Mais
en ce moment, il y a Gilbert qui est au cœur des altercations.
Mais ils sont chauds, les mecs.
Il y en a deux qui étaient obligés de quitter le studio. C'était chaud. Très chaud.
Et puis, les cadeaux. Alors, les cadeaux. Vous avez dans le Kikadi la possibilité de gagner une cave à vin, 12 bouteilles silencieuses, entièrement silencieuses, de la marque La Sommelière. Donc vous envoyez Kikadi par SMS au 7-32-16 ou alors le 32-16 touche 4. Et puis la prime de match RMC, c'est reparti depuis hier. Elle a démarré à 30 000 euros et on ajoute 500 euros à chaque but inscrit dans cette Coupe du Monde de foot actuellement. La prime de match est de 36 500 euros. On recommence à vous appeler dès demain sur RMC. Donc si vous vous inscrivez, et ben demain, vous pouvez recevoir un coup de fil de Vincent Moscato qui vous demande le montant de la prime. Si vous avez le bon montant au moment où on se parle, eh bien c'est gagné. Donc écoutez bien le Super Moscato Show pour vous inscrire. Il y aura encore une occasion avant 18h. Et tout de suite, les complexes, ça se travaille.
Tu souffres d'un complexe d'infériorité.
Et on est nul. Je vous dis qu'on est nul, on est nul.
C'est parce que tu te compares sans cesse.
On est capable de l'apprécier là. Merde. On se prend pour qui?
Que tu te sens inférieur.
Alors comme on m'a dit, c'était mauvais, c'était nul, c'était ménage, c'était un bourrier, c'était ici.
Cultive tes points forts et tes passions.
Je déguste ce savoureux jambon maringe. Ensuite, je plaque et ça tient.
Qui ne ressemble qu'à toi.
Sport et les muscles, toutes les parties de votre corps.
Détends-toi face aux remarques des autres.
Calme ta joie là. Bois 40 de whisky coca, profite-en quand même parce que...
Profite de ton temps.
Vous pouvez cibler chaque muscle et réaliser un travail de précision.
Et le jambon garde cette saveur exceptionnelle.
Concentre-toi sur ta vie.
Abdos, fessiers, jambes, bras.
C'est le plus important pour toi.
Les douleurs s'évanouissent.
Madrange, mon jambon star.
Moscato, il va
bien oublier le jambon. Mais lui, il a tout fait.
Il a tout croqué. Hey, à Gaillac, les mecs à Gaillac, c'est les croqueurs.
Tant qu'il y a un billet à prendre, ils sont là. Hein.
Incroyable.
Alors, donc, la finale du top 14, Toulouse-Montpellier. Toulouse arrive en archi-favori. Honnêtement, il y a de quoi redouter les Toulousains après la démonstration face au Racing. Pour Montpellier, comment éviter le complexe d'infériorité? Si tu joues demain contre Federer, Steve, je pense que c'est pareil. Si tu affrontes Usain Bolt sur 100 mètres, c'est compliqué de penser que c'est supérieur. C'est un peu pareil avec Toulouse en rugby en France.
Même sport les deux par contre.
Le Super Moscato Show règle le problème avec vous au 32-16. Pierre Thévenet, bonjour.
Salut
la Thève.
Ça va être compliqué pour Joan Codulo et ses hommes de fanfaronner avant la demi-finale, évidemment. Hein.
Ah oui, on l'a vu après la victoire face au Stade Français, pas d'effusion de joie côté Montpellier. Ils savent qu'ils ont sur leur route l'ogre Toulouse, un triple champion de France en titre qui vient en plus de corriger le Racing 71-17. Certains les pensaient peut-être moins forts qu'avant, pas le manager montpellier, Joan Codulo.
Moi, elle me fait pas peur parce que je le savais. On a trouvé qu'ils étaient malades pendant un mois ou deux mois, mais pour moi, les grands joueurs, ils sont là dans les grands moments. Les grands joueurs qu'ils ont été là contre le Racing et ça s'est vu. Donc on sait que ça va être compliqué parce que c'est une finale top 14 et ils seront là.
Et tous les chiffres sont en faveur des Toulousains vainqueurs des 11 dernières finales qu'ils ont disputées, 8 en top 14, notamment en 2011 face à Montpellier, et 3 en Champions Cup, animés en plus par l'envie de gagner 4 titres de champion de France consécutifs comme leurs aînés l'avaient fait entre 94 et 97. Joan Codulo reconnaît évidemment que les Toulousains partent favoris.
J'ai pas envie qu'on passe pour des cons. J'accepte qu'une équipe soit meilleure que nous et puisse gagner un match, comme ça a été... À chaque fois qu'on a perdu, on va se préparer, faire la guerre. Après, on verra si ça marche ou pas. Mais en tout cas, on est déterminé à ça et on a envie d'y arriver, même si la tâche sera difficile. Mais j'ai pas envie qu'on rende les armes et j'ai envie qu'on perde les armes à la main, quoi, tout simplement. Si jamais on doit le faire.
Les Montpelliérains ont la dynamique pour eux. 11 victoires consécutives, c'était depuis le 28 mars dernier. Ils avaient perdu à Toulouse. Dans les confrontations directes, Pirot, le MHR, n'a remporté que 2 des 15 derniers matchs contre le Stade Toulousain.
Alors, cette phrase est terrible de Joan Codulo parce qu'on comprend très bien son discours, hein, y a pas de souci, il est sur la bonne ligne parce qu'il a raison sur tout, mais il dit qu'on perde les armes à la main. C'est quand même terrible de démarrer une finale avec cette phrase-là.
Il se corrige ensuite en disant si oui, on doit perdre, évidemment. Mais en effet, c'est ça qui sort.
Mais c'est ça, et je pense que c'est ça qu'il pense de tout simplement, Eric, non?
Oh, non, enfin, je sais pas moi. Même quand tu n'es pas favori d'une finale, tu l'abordes pas en étant défaitiste. Enfin, moi, j'y crois pas. À aucun moment, je pense que dans leur préparation de la semaine, il y ait ce genre de discours. Fait pas. Mais non, en fait, c'est même impossible puisque tu positives tout et tu travailles justement sur les axes de jeu qui peuvent te permettre de gagner ou en tout cas sur les petites faiblesses que tu as pu voir chez l'adversaire. À aucun moment je peux penser moi qu'un coach distille de la peur dans le vestiaire. C'est impossible, c'est à l'inverse du sport de haut niveau. Alors après qu'il soit conscient, et c'est ce qu'il dit, parce que attention, il faut faire attention quand les mecs parlent dans les médias et ce qu'ils disent dans le vestiaire, mais que tu sois conscient que Mais enfin, c'est très fort que malgré tout ce qu'on a pu dire ces derniers temps, ben ils sont toujours aussi forts, ils ont une grosse avance. Mais à aucun moment je peux penser que qu'ils distillent ce discours-là. Et ensuite, je pense que le rugby, le problème du rugby, c'est que le plus fort gagne souvent quand même. Voilà.
Oui, il y a moins de surprises que dans le football, c'est sûr.
Voilà, au foot, c'est sûr que tu as quand même des leviers où tu peux défendre, jouer la carotte, jouer le contre, jouer ou jouer physique ou jouer. Enfin, c'est mais ils ont quand même des arguments, Montpellier. Moi, je les vois pas en victime.
Tu veux pas exploser quoi.
Alors, attends, non, ils peuvent exploser parce que Toulouse est capable de faire exploser.
Le Racing, je veux dire.
Mais voilà, non, mais alors attention. Moi, j'ai une thèse sur le match du Racing. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle est quand même récurrente ces dernières années. Moi, je pense que celui qui s'est reposé 15 jours pendant que l'autre bataillait 6 jours avant ou 6 jours avant pour se qualifier, parce qu'ils ont été obligés de batailler jusqu'au bout à Pau, hein, le Racing, c'est bien ça.
Oui.
Que je confonde pas les matchs. Donc, je pense que déjà il y a une différence. Voilà. Alors après il y a la différence de niveau aussi qui a fait ce résultat là. Mais non, moi je peux pas croire que Montpellier n'a pas d'armes pour gêner le Stade Toulousain. J'y crois pas. Moi je pense que devant on l'a dit, ils peuvent leur casser la gueule. Je pense que ils peuvent justement récupérer des fautes un peu comme ils ont fait là et que ce soit un match serré pendant un long moment. Après on verra.
Comment ne pas faire un complexe d'infériorité, Jérôme Pinault?
Moi, je rejoins Eric sur le fait de faire un complexe d'infériorité. Ces gaillards-là, ils font pas de complexe d'infériorité. Après, ils vont respecter l'adversaire. Mais je pense que le coach et le discours du coach cette semaine, c'est justement pour ça, pour les mobiliser. Il va les piquer. Il va dire, il leur dit, je veux pas qu'on prenne une branlée, je veux pas qu'on passe au travers. Pour mobiliser, parce qu'il veut surtout pas entendre toute la semaine ce qu'on a pu entendre pour essayer de défendre une finale de top 14 qui aurait, où il y aurait un peu de suspense. C'est Montpellier est l'équipe la plus compliquée à jouer pour Toulouse. Et ça, il veut pas que ses joueurs entendent ça pour toute la semaine pour se dire, on peut le faire. Non, eux, ils préfèrent partir sur ça va être très difficile, mais au moins ne prenons pas le bouillon. Et ça, après, il sait que ce sont des leviers qui vont pouvoir peut-être activer ses joueurs.
Ne prenons pas le bouillon, c'est ça.
Mais ça, il provoque ses joueurs. Il sait très bien que moi, je rejoins Eric. Ça, c'est le discours face cam et il y a le discours dans le vestiaire. Je peux pas imaginer que des gaillards avec la saison que vient faire Montpellier, parce que eux aussi ont gagné la Coupe d'Europe, même si c'est pas la grande Coupe d'Europe.
Ils arrivent. Penser aux 71 qu'ils ont mis en demi, c'est impossible.
Tu peux pas y penser, mais tu peux aussi penser que tu les as battus dans la saison régulière. Tu peux aussi penser que de toute façon d'avoir peur, ça va pas te faire avancer, et de faire un complexe, ça va pas te faire gagner le match. Donc il faut y aller tambour battant, il faut y aller tête basse et montrer ce que tu sais faire. De toute façon, quand tu arrives en finale top 14, si tu perds en disant ouais mais de toute façon on va pas le faire et ils sont plus forts et il y a rien à faire, faut pas y aller, faut rester à la maison.
Après c'est inconscient, c'est-à-dire personne ne se dit
ils savent très bien que
inconsciemment, tu sais que t'affrontes un monstre.
Quand Eric dit Codulo, il est hors de question pour lui d'instaurer la peur chez les joueurs. Il va pas en parler. Les joueurs sont suffisamment grands. Les joueurs, ils ont vu la demi-finale. Les joueurs, ils connaissent les joueurs, le Montpellier, connaissent le talent de Toulouse. Ils savent qu'il y a danger. Codulo, il va pas leur répéter que Toulouse est injouable en finale, que Toulouse ne perd quasiment jamais en finale, le palmarès, les adversaires. Il faut surtout faire abstraction de l'entité que tu joues. Faire abstraction du CV des mecs d'en face. Les joueurs de Montpellier, ils doivent se dire, nous, c'est pas Toulouse qu'on joue, c'est 15 joueurs de rugby, on est là pour leur casser la bouche. Ils connaissent le talent de ces joueurs-là. Il faut partir avec du positivisme, mais il aura des questions pour Codulo. Mais Codulo, par contre, dans la presse, il est bon, parce qu'il sait qu'il ne faut pas heurter un petit peu la sensibilité des Toulousains, parce que Hugo Mola, il aime bien toujours jouer, si on regarde ce qu'ils ont dit en face.
Ils vont nous croire.
Il est flatté, Codulo. Toulouse, c'est injouable, c'est trop fort. Mm. C'est tactiquement plutôt bien joué. Je te dis pas qu'ils vont gagner, Pierrot, mais au moins, ils donnent pas de possibilité à Mola d'avoir un ressort à activer pour ces joueurs, en disant, regardez, ils ne respectent pas, on va leur casser la bouche. Mais les joueurs de Montpellier, je pense qu'ils n'ont pas peur de Toulouse. Oh. Ils n'ont pas peur de Toulouse, Pierrot. C'est des rugbyman, ils les jouent.
Non, mais après, il faut se méfier des déclarations. Moi, je connais aucun match et aucune compétition sportive, les garçons, qui s'est gagné la semaine d'avant. Hein. C'est toujours le match des déclats.
Ah oui,
ça se jouera sur le terrain. Et ça, c'est.
Il n'y a pas que les déclats, c'est l'impression.
Ouais, mais ce qu'il dit face à la presse, c'est pas ce qui se passe dans vestiaire.
Ce qui est marrant, et ce que je savais pas, c'est que Codulo, il dit, nous, la seule interrogation qu'on a et la seule nouveauté, c'est Dupont. On a joué qu'une fois en 5 ans contre Antoine Dupont, Montpellier.
Bah oui, c'est pas nouveau, ça.
Pour eux, c'est une nouveauté.
Ce club de Montpellier par cœur, c'est l'ancien capitaine Fulgence Ouédraogo qui est en direct dans le Super Moscato Show. Salut Fufu.
Bonjour à tous.
Salut. 18 saisons au MHR.
C'est ça, exactement.
Ouais. Et combien de saisons capitaine ?
Une dizaine.
Une dizaine, c'est pas mal quand même. Hein. Ouais. 10 ans capitaine d'un même club. Et Fulgence, d'ailleurs, tu es toujours au club en tant que responsable identité et marque. En gros, si je comprends bien l'intitulé, tu es là un peu pour faire perdurer l'esprit MHR à travers les générations.
C'est ça, travailler sur l'identité, travailler aussi sur le développement de l'engagement autour du club.
Donc tu es très proche encore de l'équipe première ?
Mais un peu quand même, un peu, on les suit de près, surtout après cette belle saison qu'ils sont en train de réaliser.
Est-ce que c'est compliqué d'affronter Toulouse quand ils affichent une telle forme ? Est-ce que psychologiquement c'est difficile ?
Mais c'est difficile d'affronter Toulouse en finale surtout. Hein. Vous l'avez dit, je crois que c'est 11 finales invaincues. Donc les derniers, je crois que c'est Biarritz qui avait gagné Toulouse en finale.
Il y a 20 ans, en 2006.
Donc, c'est ça, en 2006. Pourquoi pas, on va y croire, hein, on va y croire jusqu'au bout.
Alors y croire, c'est évident, mais comment tu sens tes gars, là, comment tu sens le groupe ?
Mais on est sur une bonne dynamique, hein, nous, depuis février, on enchaîne les victoires, le groupe... les joueurs tournent, mais les résultats restent présents. Donc non, on est vraiment sur une très très forte dynamique. Les joueurs, je les sens très concentrés, très motivés. Ils savent ce qui les attend samedi. On l'a vu à la fin du match, ils gagnent ce match, mais ils sont de suite concentrés. Ils sont plongés dans cette finale. Et là, ils sont en train de se préparer du mieux possible pour justement aller défier cette équipe de Toulouse samedi. Et essayer de remporter un deuxième titre de Brennus pour notre club.
Alors justement, le premier, c'est 2022. C'est ta dernière saison au club. Malheureusement, tu es blessé pour la finale. Si tu compares un peu les deux équipes, il y a encore des joueurs hein, de 2022. Est-ce qu'elle te semble plus forte, celle de cette année, Fulgence ?
Difficile à dire, mais j'ai l'impression qu'elle est plus forte mentalement. Je pense qu'elle est, elle est sûre de ses forces. Elle est... très concentré. Je l'ai senti aussi après le titre de Coupe d'Europe. Moi, je sais que notre génération, on avait gagné un titre de Coupe d'Europe. Derrière, on avait fait la fête pendant une semaine. Eux, ils ont fait la fête le vendredi soir et le samedi, ils étaient déjà tournés vers le match de Pau à domicile parce qu'ils avaient envie de se qualifier pour une demi-finale directe et de jouer voilà, pour remporter un deuxième titre dans une saison, ce qui n'a jamais été fait à Montpellier. Donc, je les sens motivés, je les sens en mission.
Plus fort mentalement, c'est important hein, parce que ça va compter en finale. Hein.
Et dans le jeu, Fulgence, bon, on a tous vu la déconvenue du Racing. Effectivement, leur état de forme, comme le dit Eric, n'était pas comparable à celui au vôtre. Vous avez pu vous reposer quand même pendant 15 jours. Mais qu'est-ce qu'il faut éviter de faire pour éviter le fait que Toulouse déroule ? Parce qu'à un moment, quand ils prennent la main, ils jouent debout et ils déroulent. Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire ? Comment les contrer là-dessus ? Éviter de les mettre en confiance tout de suite.
Mais si vous avez la solution, je la veux bien.
Toi, t'as joué au rugby, nous, on n'a pas joué au rugby.
Non, mais nous, ce qu'il faut, c'est qu'on appuie sur nos points forts. Ça n'invente pas un rugby différent parce que c'est une finale. Voilà, on est très bon en conquête, on est très bon en défense depuis le début de la saison. Il faut qu'on amène Toulouse sur ce terrain-là, sur un jeu qui va être un peu plus restreint, justement de pas leur donner des ballons de relance, de pas jouer dans le désordre, parce que c'est ce qu'ils aiment et ce qu'ils adorent, c'est là où ils performent. Justement, nous, essayer de jouer un jeu plutôt structuré.
Et après, oui, il y a cette force en mêlée quand même. Hein. Je suppose que l'objectif, ça va être ça, hein. Ça va être de leur casser la gueule.
Oui, bon, enfin.
C'est l'objectif de toute équipe de rugby en général, oui, mais bon, ça, vous avez des armes pour.
On a des armes pour, mais souvent on parle des trois quarts toulousains, mais devant c'est très costaud aussi Toulouse, donc il y aura un beau défi ce samedi.
Alors, notre débat était le suivant. Comment ne pas faire un complexe d'infériorité quand on affronte Toulouse? Alors, on va accueillir un supporter toulousain, Jonathan, qui aime bien notre débat, j'ai l'impression.
Lui, c'est le complexe de supériorité, plutôt, non?
Salut, Jonathan.
Salut, Jonathan.
Salut, Jonathan.
On va dire que le Toulousain, on le molon, comme d'habitude, on le sait.
Mais, on le dit, puis on le constate aussi. Hein,
on le constate, mais on a de quoi. La question était simple, en fait, mais comme je disais, nous, ça fait quand même pratiquement un mois et demi qu'on sait qu'on est premier. On a 10 points d'avance, donc on a perdu des matchs, certes, à la maison, contre Clermont, on a perdu pas mal de matchs aussi au Racing, mais ils sont en prépa physique. Toulouse avait un avantage de ça, c'est qu'ils ont refait une prépa physique en interne. Et ils sont, en fait, ils arrivent, on l'a vu contre le Racing, ils arrivent, les clubs arrivent étouffés et eux, ils sont en pleine bourre, en fait. Ils sont en pleine bourre et en plus de ça, on se retrouve avec, je l'ai dit depuis plusieurs fois là, que le MHR va péter la gueule au Stade Toulousain.
On n'a pas dit qu'ils allaient le faire, on n'a pas dit ça. Hein.
Bah essayez. Tu veux qu'ils viennent comment? Tu veux qu'ils viennent pour pas jouer Montpellier?
Non, mais je dis pas ça.
Tu veux le Brennus sur match, en fait, toi?
Non, mais forcément. Mais bon,
ils l'ont déjà, le Brennus.
Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que le 15 de Toulouse, c'est le 15 pratiquement. Enfin, le devant, c'est pratiquement l'équipe de France. C'est le 15 de France qui est habitué à jouer l'Irlande, tout ce qui est la destination. Et donc voilà, il ne faut pas oublier que derrière, devant, c'est gros aussi. Il n'y a pas que derrière où ça court vite. Et Mola a dit une bonne phrase, en fait, contre le Racing. Il a dit, c'est deux styles de jeu différents et on va voir lequel va passer le cap. Et c'est sûr que c'est un jeu où ça tape fort au niveau Montpellier. Mais on a bien vu aussi que Ntamack s'est pas échappé, qu'il a pris tout sauvage à la gueule trois fois. On a, voilà, un niveau plaquage, et ils sont, moi je dis, voilà, physiquement, je pense qu'ils sont au-dessus. Après, dans le jeu, ça reste une finale et que tout le monde, voilà, c'est qui tout double. Mais je pense que physiquement, ils sont prêts, physiquement, ils sont au-dessus.
Qui ça y est, les tiens ou les leurs?
Toulouse.
Quand tu dis
les
tiens, bien sûr. C'est d'accord avec ça, Fulgence, physiquement? Physiquement, ils sont au-dessus?
Je suis d'accord avec le fait qu'ils ont perdu en quart de finale de Coupe d'Europe. Et leur prochain rendez-vous, c'était la demi-finale, quoi. Donc, toute la fin de championnat, ils se sont dit, c'est pas grave. On peut, entre guillemets, la galvauder, mais il faut être prêt pour cette demi-finale. Et ils sont préparés en conséquence. Et ils l'ont montré, ils étaient plutôt bien prêts.
Non, mais on se demande souvent, nous, dans l'émission, l'importance de la fraîcheur physique sur ces matchs-là. Le fait d'avoir joué peu de matchs véritablement importants depuis un mois et demi, c'est un vrai avantage physiquement, Fulgence?
Oui, bien sûr. Avant, on parlait de dynamique, d'enchaîner les matchs, c'était quelque chose de positif. Maintenant, si on regarde les dernières finales, c'est tout le temps le premier contre le deuxième quasiment qui se joue. Le fait d'avoir pu couper une semaine avant la demi-finale, pour nous, c'était absolument nécessaire. En plus, on avait joué jusqu'au bout la Coupe d'Europe. Donc, jouer une semaine en plus, on n'aurait pas pu. Je pense qu'on ne serait pas arrivé en finale si on avait joué ce match de barrage, même à domicile. Donc, la fraîcheur, elle compte énormément. Maintenant, les joueurs, ils sont prêts et ils n'ont pas besoin d'enchaîner les matchs pour être performants.
Fulgence Ouédraogo dans le Super Moscato Show. Ouais, Jérôme.
Non, mais je voulais ajouter juste en plus qu'avec les conditions climatiques d'actuel, je peux te dire que la fraîcheur et le temps de récup, le temps de prépa. Hier, j'entendais Denis qui disait une journée près de récup, c'est quasiment pareil. Non, c'est pas pareil. Quand il fait 40 degrés et que tu peux avoir un jour de plus au calme à la maison, c'est énorme. Il y a une différence énorme parce qu'avec une fin de saison, une saison qui a été longue, avec la chaleur qu'il fait, quand tu fais des exercices à haute intensité, je veux dire, tu le payes cash et la fraîcheur, elle va forcément jouer samedi sur la pelouse du Stade de France, c'est obligé.
Merci Fulgence.
Avec plaisir.
On te demande un petit pronostic quand même.
J'espère seulement que Forletta et Marco Tolène vous appelleront samedi soir.
Oui, bien sûr, parce que la dernière fois, on avait bien rigolé.
Il avait fait en 2022. Il dit alors Vaïssin, tu croyais pas à nous, Vaïssin?
Forletta, faut le suivre.
Fulgence, Forletta, c'est un mini Moscato, non? J'ai l'impression, dans l'esprit.
C'est-à-dire dans l'esprit ou dans la forme physique?
Les deux.
Ouais, à tous les niveaux.
À tous les niveaux, oui, c'est vrai, ça se voit un peu.
Merci à toi, Fulgence, en
avec
tout cas.
Avec plaisir.
Merci à Julien Landry également pour l'interview de Fulgence Ouédraogo. Jonathan, supporter toulousain au 32-16 également. C'est l'heure de vous inscrire pour la prime de match RMC. Le principe, il est tout simple. La prime de match évolue à chaque but inscrit dans la Coupe du Monde de foot. On ajoute 500 euros. On est parti à 30 000. Actuellement, elle est de 36 500 euros. Vous vous inscrivez et si on vous appelle, eh bien, il faudra nous donner le montant exact de la prime au moment de l'appel. Et à ce moment-là, ben, la prime de match, elle est pour vous. La semaine dernière, Vincent Moscato a fait gagner 67 500 euros de prime de match à un de ses auditeurs. Pour vous inscrire, vous avez 10 minutes maintenant pour envoyer but par SMS au 7-32-16. Dans un instant, le Portugal est sous pression avant de jouer l'Ouzbékistan à la Coupe du Monde de foot. À tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Pierre Dorian.
Le Super Moscato Show sur RMC avec Eric Dimeco, Jérôme Pinault, Adrien Aigouin, Stephen Brun. Dans une demi-heure, on parle des Bleus. La théorie du ketchup pour Ousmane Dembélé, est-ce que vous y croyez maintenant qu'il en a mis un? Est-ce qu'il va mettre plein de buts dans cette Coupe du Monde? D'abord, on parle des Portugais.
RMC, le Mosca.
Alors, c'est à 19h et c'est un match important, même si sur le papier, c'est un match déséquilibré. Le Portugal affronte l'Ouzbékistan. Il se trouve que le cas Ronaldo n'est toujours pas tranché par le sélectionneur Roberto Martinez. Arnaud Valadon, tu vas commenter la rencontre sur RMC. Grosse pression hein, sur les Portugais.
Oui, le sélectionneur entend toujours protéger sa star. Il avait d'ailleurs déclaré après le nul contre la RDC, lorsque l'on cherche à marquer des buts, il faut que Cristiano soit sur le terrain. Et hier, en conférence de presse, Roberto Martinez, interrogé, a érigé CR7 en modèle pour tout le monde.
Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un joueur très expérimenté, donc cela aide. Je pense que c'est un joueur qui se concentre tellement. C'est probablement le plus grand exemple dans la façon de se concentrer sur les aspects que l'on peut influencer. La façon dont il récupère, la façon dont il se prépare, la façon dont il s'entraîne. Et c'est un bon exemple pour nous tous. C'est sa 6e Coupe du Monde et cela aide vraiment dans ce domaine.
Sauf qu'à 41 ans, CR7 fait son âge. Il reste sur 10 matchs sans marquer en phase finale de grandes compétitions, Coupe du Monde et Euro. Dernier but 2022 contre le Ghana. Et il n'est plus si intouchable que ça dans l'opinion. Le grand quotidien portugais Abola a réalisé un sondage qui demandait quels joueurs doivent être titulaires tout à l'heure face à l'Ouzbékistan. Pas de Cristiano dedans, mais plutôt Gonçalo Ramos, l'attaquant du PSG.
C'est ça qui change tout. Puisqu'avant, en fait, on pouvait pas trop toucher à Cristiano parce que.
Y a rien dire.
Parce que c'était la crise nationale, en fait.
Mais enfin, il y a deux, on pouvait pas le toucher parce que d'une, il était performant, et qu'il y avait pas, il y avait pas grand monde autour de lui. Aujourd'hui, il y a quand même du monde dans cette équipe du Portugal, même si Gonçalo Ramos, ça pas non plus, au PSG, c'est un statut de remplaçant
Mais Gonçalo Ramos a prouvé lors de la dernière Coupe du Monde qu'il pouvait être.
Sur un match, Pierrot. Il a mis un triplé contre la Suisse, je crois, et c'est tout.
Et CR7 était sur le banc.
C'est tout. Et ensuite, il y a du monde. Donc, Cristiano Ronaldo, il met plus un pied devant l'autre. Parce que les chiffres le prouvent et le premier match le prouve aussi. Et il y a des garçons qui sont susceptibles de le remplacer. C'est pour ça aussi que l'opinion publique commence peut-être à tourner un peu. Tu vois, si Messi avait fait deux premiers matchs Qatar, l'opinion publique aussi, peut-être qu'elle aurait dit, ah, peut-être que Leo Messi, c'est la fin. C'est pas Pierrot. Si l'Argentine avait été pas très bonne, avait fait nul et que Messi mettait pas un pied devant l'autre, peut-être qu'aussi il y aurait eu ce.
Messi a jamais été vraiment nul avec l'Argentine, hein, alors que Cristiano, ça fait un moment que c'est un boulet quand même.
Mais écoute, moi je sais. Jérôme, je pense qu'ils vont aller dans le mur avec lui.
Je suis comme Stephen. À un moment donné, quand tu alignes un joueur qui joue à ce même poste et qui fait un triplé, tu as fait basculer les choses. Tu peux expliquer légitimement que ta vedette, ta star, ta légende, va passer sur le banc. Elle sera là, mais elle jouera moins. Et il a fait l'inverse. Après, quand on voit comment joue le Portugal et les déclarations avec un milieu de terrain que tout l'Europe et tout le monde envie, ces deux-là, quand tu vois le dispositif et comment ça joue. La grosse différence dans ce dispositif portugais par rapport à si on peut comparer à Messi, c'est que à Messi on lui donne Ronaldo la demande, il est sans arrêt en demande et à pester que ça passe pas par lui, mais tu peux pas jouer avec un piqué hein. Et l'attitude est pas bonne et ça a le don d'énerver. Moi les déclarations de João Neves, je les comprends et c'est ce que je disais tout à l'heure sur le débat Messi. Non, ça peut vite agacer si ça bouge pas.
João Neves, ses déclarations, il a dit quoi, il a juste dit que c'est comme nous. Comme nous, comme
et
les
il
autres.
Doit être non, considéré comme les autres, évidemment. Mais aux yeux de sélectionneurs et aux yeux d'un certain public portugais, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et le problème, c'est que au-delà des considérations pseudo-contractuelles qui est en cours en ce moment entre le sélectionneur et Al Nasser, c'est l'opinion publique qui fait prendre la décision à un coach de mettre un joueur sur le terrain. C'est pas bon si tu veux gagner une compétition. Il faut faire fi de l'opinion publique et avoir des certitudes. Et les certitudes, ça passe certainement plus par CR7. Je suis désolé.
Eric.
Non mais le il faut se mettre à la place du coach. Gérer ce genre de cas, ça doit être très compliqué. Si le mec se met pas tout seul et s'il prend pas sa retraite, qu'il veut continuer à jouer, c'est difficile d'être le sélectionneur qui va mettre laisser à la maison Cristiano. Et donc il est dans ce cas-là, c'est-à-dire que il est dans le cas où tu es obligé d'aller au bout et aller peut-être dans le mur avec Cristiano. Ça s'était passé avec la génération espagnole qui avait tout gagné là, c'était au Brésil où ils avaient explosé, c'était même pas sorti de la poule les Espagnols, c'est ça Pierrot hein, si je me souviens bien.
Oui.
Donc et parce que justement c'était une génération dorée. Alors là c'était plusieurs joueurs, mais génération dorée qui a tout gagné. Et les mecs sont toujours là. Et tu es obligé de les mettre. C'est dur de trancher. Donc
après il y a quand même un truc qui est pas clair avec Al Nasser. Franchement l'histoire elle est dingue.
Mais non elle est pourrie l'histoire.
Mais oui c'est pas si on peut appeler ça un conflit d'intérêt, mais ça peut être biaisé. Cristiano Ronaldo, je caricature, mais c'est le patron de ce club. C'est lui qui fait venir qui il veut comme coach. C'est comme Messi à Miami, il fait venir tous ses potes entraîneur à chaque fois. Donc la situation, elle n'est pas saine. Elle n'est pas du tout saine.
Oui, et la situation.
Il est coincé, le sélectionneur.
La situation qui n'est pas saine non plus, c'est que là, en estimant que l'équipe d'Ouzbékistan n'est pas à la hauteur, même si le premier match n'a pas été facile pour le Portugal, il met un but ou deux et c'est reparti. Quoi. Il faut l'aligner, il n'y aura plus rien à dire, c'est ça le problème.
On zappe le Portugal-Ouzbékistan, 19h à vivre sur RMC avec Arnaud Valadon pendant Rotten sans flamme. L'actu du 15 de France, c'est trois matchs dans l'hémisphère sud, Nouvelle-Zélande, Australie et Japon. Et apparemment, Pierre Thévenet, Fabien Galthié veut emmener une grosse équipe de France.
Oui, 33 joueurs appelés, dont 12 bordelais. L'élimination précoce de l'UBB aura bien servi Fabien Galthié. Maxime Lucu sera le capitaine de cette équipe avec donc Jalibert, Moefana, Deporter, Penaud par exemple. D'autres cadres des Bleus sont présents. Atis Ogbe, Gaëton, Guillard également. Et des jeunes comme le Toulonnais Mathis Ferté ou le Perpignanais Théo Forner. 33 joueurs, ça veut dire qu'il reste 9 places pour les finalistes de samedi soir.
9 finalistes.
Enfin, 9 finalistes a priori. Sauf blessure samedi soir lors de la finale. À ce moment-là, Fabien Galthié pourrait revoir ses choix, mais il a déjà lui contacté les 9 joueurs qu'il souhaitait voir rejoindre le groupe. Les accords n'en permettaient que 5 jusqu'à maintenant, mais vu que c'est une vraie compétition, ces accords ont sauté et le sélectionneur fait ce qu'il veut.
J'ai toujours essayé de faire la meilleure équipe de France possible avec deux contraintes. Donc il faut prendre des décisions. Donc il reste les deux meilleures équipes du championnat en cours qui doivent jouer leur finale. Donc on doit partir à ce moment-là. L'an dernier, on a fait une première expérience. 5 joueurs qui étaient autorisés à partir par leur manager, par leur président et sélectionnés par moi. J'arrivais en troisième position. Cette année, grâce aux accords qu'on a avec la Ligue, on est toujours dans la discussion avec les managers, toujours en discussion avec les présidents, mais j'arrive dans la décision en première position.
Voilà, c'est lui qui décide maintenant, c'est le patron, et il veut bien figurer. Deux entraînements de 2 heures à très haute intensité sous le soleil hier et aujourd'hui pour les préparer. Une liste de 9 joueurs sera donc annoncée après la finale. Parmi les noms qui nous sont remontés aux oreilles, il pourrait y avoir Nouchi, Kado et Vérac de Montpellier, et côté Toulouse, Dupont donc, mais aussi Tamac, Movaca, Meafou, Roumat qui ont été évoqués.
Dupont, Tamac,
et Movaca également.
Et évidemment, ils ne pourront pas jouer contre la Nouvelle-Zélande.
Ils ne pourront pas jouer contre la Nouvelle-Zélande.
Ils pourraient pas dans l'absolu.
Non, ils n'ont pas le droit.
Pas le droit.
Pas le droit.
Jérôme ?
Non, mais j'ai une tournée d'été avec Dupont, Tamac et Meafou, c'est pas la même que d'habitude. Exactement. Et ça donne envie de la suivre. Évidemment que c'est enfin pour. Ouais, moi, je vais être occupé cet été, tu sais.
Non, mais justement, Fabien Galthié nous a dit, vous allez tous avoir les regards braqués sur la Coupe du Monde de foot et le Tour de France. Il a dit, j'espère que vous nous verrez un petit peu.
Mais oui, le samedi matin à 9h, c'est magnifique.
Mais plutôt Fabien, parce que si ça se passe pas bien, tu serais bien content qu'il y ait la lumière.
Qu'on va pas jouer sur la Coupe du Monde. Non, on n'y est pas.
Et les phases finales, c'est aussi les phases finales du basket ce soir. Il y a un moment très alléchant, puisque c'est le match 5 de la finale du championnat de France entre Paris et Monaco. On va connaître donc le champion de France à l'issue de ce match décisif, mais un match sur fond de polémique, voilà. Puisqu'il y a une drôle d'histoire avant cette rencontre. Diane Carlotti nous a rejoint. Salut Diane.
Salut Pierrot, salut Vincent, salut à tous. Salut.
Les joueurs de Monaco ont menacé de boycotter la rencontre en raison de la suspension de Mathieu Strazel, le Monégasque. Est-ce que c'est du sérieux? Est-ce que vraiment on pourrait assister à un boycott tout à l'heure?
Alors écoute, pour l'instant, à l'heure où on se parle, on ne sait toujours pas si Mathieu Strasel pourra jouer ce soir ou pas. Et de cette décision, eh bien, dépend l'éventuel boycott d'une partie du vestiaire monégasque. Un boycott qui, disons-le, semble assez improbable, et ce, peu importe le verdict. Ce qu'on peut dire à date, bah, c'est que le meneur de 23 ans et toute la Roca Team sont présents à Paris, sur les réseaux sociaux du club. On les a tous vus s'entraîner sur le parquet de l'Adidas Arena où se jouera le match ce soir. Vincent, je te rappelle que Strasel a été suspendu par la Ligue Nationale de Basket, la LNB, pour avoir traité l'arbitre Mehdi Difala de tricheur lors du troisième match de la finale à Monaco. La suspension a été annoncée hier après-midi et devait prendre effet pour le match 5, le match décisif ce soir. Mais le club du Rocher a fait appel de la décision en urgence devant la commission d'appel de la Fédération française. Autrement dit, accrochez-vous bien, ils ont demandé à suspendre la suspension de Strasel et on attend toujours le verdict. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, même si Mathieu Strasel est suspendu et ne joue pas, eh ben, on peut quand même s'interroger sur la tenue du boycott. C'est le dernier match de la saison pour les deux équipes. Beaucoup de joueurs de Monaco vont quitter le club prochainement. Donc, est-ce qu'ils pourraient renoncer à aller chercher un dernier titre tous ensemble avant de tirer leur révérence? Bah, franchement, ça semble pas tenir la route.
Ça, c'est vrai que ça semble pas tenir la route, mais il n'y a pas vraiment de sortie positif de cette affaire, Steve, parce que Mathieu Strasel a eu un comportement quand même indigne lors du match 3. Donc soit il est suspendu et pour ça que ça flingue la finale, soit il ne l'est pas et les Parisiens vont se sentir lésés.
Il y a un problème de chronologie, Pierrot. Quand tu fais une connerie sur le match 3, t'es suspendu pour le match 4. Il y a pas de tu fais une connerie au match 3 et t'es suspendu pour le match 5. La responsabilité, c'est de la Ligue nationale de basket quand j'ai accoté des matchs de play-off à 48 heures d'intervalle. Tu fais en sorte qu'il y ait une commission pour juger sur le match 4. Il a joué le match 4. La logique des choses voudrait qu'il joue le match 5 aussi, Mathieu Strasel. Voilà, ils se sont mis dans la mouise, Maintenant, le boycott, moi j'y crois pas trop, c'était juste un petit coup de pression pour que le jugement soit rendu en faveur des monégasques. Mais écoute, on suivra ça avec attention, mais moi je pense que Monaco sera sur le parquet
au complet. Ils sont favoris, enfin au complet, il y a beaucoup d'absents, mais si Strasel est là,
non, pas favoris, mais même s'ils ont sur la globalité de la série, ils ont plutôt été dominants. Maintenant c'est un match 5, l'année dernière Paris a été champion de France sur un match 5 à l'Adidas Arena aussi. En tout cas j'espère que tout le monde sera là pour le bien du sport, même si l'image n'est pas bonne, parce que Mathieu a fait c'est pas bon, et puis ne pas sanctionner Mathieu. Tu mets un petit peu l'arbitrage aussi, tu t'es fait insulter tricheur 4 fois en 20 secondes, tu donnes pas une très bonne image sur la protection de l'arbitrage aussi.
Tu as 20 secondes pour nous expliquer l'impact du transfert de Giannis Antetokounmpo à Miami.
Écoute, Giannis Antetokounmpo, double MVP de la Ligue, champion 2021 avec les Bucks, qui a toujours joué dans cette franchise des Bucks, a été transféré à Miami contre quelques joueurs très bons, notamment Tyler Herro qui est All-Star. Ça redistribue les cartes dans cette conférence S, puisque maintenant il y a un binôme qui s'appelle Bam Adebayo, Giannis Antetokounmpo à Miami, coaché par un des meilleurs coachs de la Ligue. Donc Miami redevient un prétendant éventuellement. Ils vont encore se renforcer, mais ils ont une belle équipe.
Prétendant au titre l'année prochaine?
Non, pas, alors je vais attendre quelques autres noms. Pas prétendant au titre, il y a des mecs qui sont devant, Boston notamment. Mais Miami redevient éventuellement candidat pour être une finale de conférence. Mais c'est un gros coup et voilà. On va voir Giannis Antetokounmpo jouer avec le maillot de Miami.
Il y a une raison de plus pour Eric de regarder les playoffs NBA, puisque c'est un peu sa franchise.
En plus,
de Miami,
c'est chez toi, Eric.
Ben oui. Enfin, c'est chez moi, c'est chez ma fille. Mais c'est vrai que j'ai
chez ta fille, c'est chez toi.
Non.
C'est grâce à ça qu'il est devenu bilingue, Eric.
Oui. Exactement. Mais c'est vrai que je suis beaucoup allé voir. Je suis allé voir pas mal de matchs là-bas.
What do you think of the game plan of Giannis?
Allez, le journal moyen deuxième édition.
Le journal moyen.
Yes, I am.
Il s'est passé plein de choses cette nuit sur RMC pendant France-Irak, un match de Coupe du Monde. Restez bien là. Un très bon Jean-Michel Larquet clash entre Gilbert Bribois et Jean-Louis Tour. C'est tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Pierre Dorian.
Il est 16h49 sur RMC, c'est l'heure du deuxième journal moyen.
Le deuxième journal moyen, il s'est passé plein de choses hier, cette nuit, la nuit dernière sur RMC pendant France-Irak. Hier, Dugas a manqué de respect à Stephen Brun. Et puis 16h55, première question du Kikadi du jour. Vous écoutez RMC, c'est le 2713e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct live, en plein milieu de la rédaction d'RMC, toutes les infos que vous n'avez toujours pas entendues sont dans le journal moyen, deuxième édition.
Service après-vente du Moscato Show d'hier, bonjour.
Bonjour
Vincent. Vincent Moscato sur un fil à 17h03 hier quand il accueille Dugas, Christophe Dugarry. Christophe comment, Vincent?
c'est ce qui se fait de mieux sur le bassin d'Arcachon, je te dis. Alors tu le verras, il torse poil. Écoute-moi, Schwarzenegger à côté, c'est clochard. Il est là, Christophe Dougary. Comment ça va, Christophe?
Salut,
Monsieur Dougary.
Mais Vincent, tu crois pas si bien dire
Christophe Dougary, ouais, c'est une nouveauté. Et puis, alors,
tu te demandes pas, tu crois pas si bien dire.
Et puis sur les prénoms, justement, Stephen, c'est pas un secret, t'es assez susceptible, c'est sensible. C'est ton prénom. T'aimes pas quand on t'appelle Steven, Stéphane.
Non, j'aime pas trop.
C'est Stephen.
Stéphane,
ouais.
Stéphane, c'est le mieux.
Stéphane, chaque fois que tu lèves la tête, tu dis t'es sérieux, gros. Du gars hier, qui fait l'émission un petit peu de temps en temps avec nous, qui te connaît bien, t'as pas du tout respecté sur un propos.
Et les autres, alors qu'ils sont à côté, ils se disent oh, bonne... il te faut garder un groupe, il te faut garder une justice dans ce groupe. Qu'est-ce qu'ils disent, les autres?
Lui, après, lui, après, alors, après c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, Steve, mais est-ce que, justement.
Et le Steve,
je l'ai entendu en direct.
Tu t'es dit, ça va l'agacer.
Je savais que les grands, ça l'énervait.
Steve,
je crois que sur l'une des toutes premières émissions qu'on a fait ensemble, ça m'est arrivé aussi. Je sais qu'il a pas aimé du tout.
Il bosse avec Steve, ça vidant, il doit comprendre tout le monde. Il doit comprendre.
Puis il a fait quelques soirées avec Stevie Boulet aussi, du gars.
Aussi, ouais.
Allez, jingle. Jingle Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde aux États-Unis, c'est parti.
An orange, a café.
We will make America great again.
An orange juice and a café.
Cette nuit, France-Irak, interminable. Match interrompu à cause de l'orage. 2 heures de mi-temps, des éclairs, mais sur RMC. Nous aussi, on a eu nos petits problèmes. C'était pas l'orage. En plein match, problème pour Jean-Michel Larquet, qui pourtant n'est pas du tout présent à Philadelphie.
Les émissions, t'as souvent dit qu'un attaquant en forme, c'est un attaquant qui a la bonne frappe qui part. Bah là, on voit que Mbappé est en forme.
Oui, attention aux Irakiens. Bah, je suis obligé de vous quitter, la bonne prise de balle de Mike Maignan. Pourquoi tu nous quittes?
Parce que mon téléviseur va s'éteindre. Comme je suis,
va appuyer sur la télécommande. Bah oui, quand même. Ouais, c'est important. Et alors, j'ai dit une bêtise, c'est 18 buts pour Messi.
C'est incroyable, c'est-à-dire que, vous savez, c'est la veille qui est faite contre, mais je ne devais pas avoir cette télécommande à côté de lui, Jean-Michel.
T'imagines, le match, il a duré 5 heures, l'écran, il se met en veille.
Ou alors, il y a une télé, une vieille télé où il n'y a pas de télécommande, il appuie sur le bouton. Et ça dure longtemps. Il n'y a pas de minute de Jean-Michel Larquet pendant 3 minutes, pas de nouvelles pendant 3 minutes. Jean-Louis Tour s'inquiète.
19 minutes de jeu, 1-0 pour la France face à l'Irak. Le but de Mbappé à la 15e, vous êtes sur RMC. Et on est ensemble tant que ça joue sans interruption. On fera une interruption pendant la pause fraîcheur, mais tant que le ballon roule et que le jeu a lieu, on est là en direct sur RMC. Avec cette question très importante, est-ce que Jean-Michel, ta télé est toujours allumée?
Ça y est, je vais redonner un petit coup de but. Oui, je vais rebooster un peu, ça va.
Rebooster.
Un petit coup de but.
Voilà.
Un petit coup de quoi?
Le capitaine Larquet, vous le connaissez, il a de l'expérience. À la mi-temps, il sait, il sent, il connaît l'embrouille. Il sait que ça va durer longtemps. Jean-Michel, il a du nez, il le sait. Et il est très clair, très transparent avec Jean-Louis Tour. Il faut une réunion d'antenne, mais en direct à la radio.
Alors la pause fraîcheur, on sait qu'elle dure une ou deux minutes. La pause orage, on ne sait pas combien de temps elle va durer. Donc on va débriefer la première période et puis on va se quitter bons amis. Hein,
ah bon, c'est l'idée là?
Oui, parce que demain matin il y a école à 5h du matin. Ah, okay. Voilà, d'accord. Donc.
Oui, on va s'en occuper en antenne peut-être, Jean-Michel. On peut peut-être
on va se débrouiller, mais bon, si vous voulez débriefer la première mi-temps, il n'y a aucun problème, mais bon, après
après je me casse.
Mais c'est déjà tout expliqué.
Il a passé l'âge, Jean-Michel, ça va. Et après attention, c'était un peu tendu, le temps était à l'orage, orage, clash. Alors vous souvenez du clash entre Riolo et Bribois? Il y a eu un clash Jean-Louis Tour, Gilbert Bribois hier. 2 heures d'interruption, donc il faut s'organiser, il faut organiser l'antenne, organiser des débats, changer ce qu'on appelle le fil conducteur de l'émission. Jean-Louis Tour est aux manettes, hein, celui qui présente l'émission, c'est le chef, mais Gilbert a décidé de s'incruster pour aider à meubler. Alors on a deux coqs dans la même basse-cour, attention, il y a même Walid Acharchour qui est là. On part sur un petit délire, on improvise un délire.
Alors moi j'ai une question, si jamais on va jusqu'à la matinale, jusqu'à Apolline, est-ce que Walid peut faire l'interview du 8-35?
Avec grand plaisir,
j'en rêve.
Attention, je suis très très sous-côté en interview.
En interview politique,
oui, t'es sous-côté Walid, effectivement. Oui.
Alors là, voilà, on imagine, ils se font un petit délire, ils imaginent Walid qui interview par exemple un politique, Dominique de Villepin et Gilbert Bribois. Il prend confiance et il décide d'imiter en plein direct Dominique de Villepin.
Mais, quoi, comme question.
Pourquoi pas.
Tout de suite.
Ouais.
Bah, est-ce que Dembélé ou Mbappé, à qui on doit donner les clés?
Écoutez, monsieur Achard, sure.
Il serait plus.
La France est un grand pays.
Tu l'as.
C'est Canteloup ou c'est Gilbert là?
Oula. Ah ouais, là, bah, sosie de Canteloup déjà, on l'a.
Et là, moi, je connais bien mon Jean-Louis Tour, parce qu'il est chez lui, c'est son émission. Il est un peu énervé, et là, c'est trop. Il en peut plus de Gilbert Bribois. Donc, écoutez, la violence de la fin de la séquence, c'est magnifique. On est en pleine nuit sur RMC. Et on adore ça, c'est la vie, RMC.
Constate qu'il n'y a à peu près rien de préparé éditorialement dans cette émission. J'arrive, il ne se passe plus rien. Donc il faut vous donner des idées, les gars. Il faut pas du tout.
C'est toi qui as foutu le bordel, Gilbert. Donc t'inquiète pas. Merci, Gilbert. À tout à l'heure pour l'après-match. Allez, on peut sortir l'audition. Tu te fais virer.
Merci beaucoup. Merci, Gilbert.
Non, on va parler du match de tout à l'heure.
C'est incroyable.
Allez, hop. Philippe par lui dire allez, hop. Allez,
dégage. C'est pas l'expression, c'est la moutarde qui te monte au nez, tu sais. La moutarde, à un moment, elle sort du nez. Jean-Louis, c'est incroyable, on écoute.
Constate qu'il n'y a à peu près rien de préparé éditorialement dans cette émission. J'arrive, il ne se passe plus rien. Donc il faut vous donner des idées, les gars. Il faut pas du tout.
C'est toi qui as foutu le bordel, Gilbert. Donc t'inquiète pas. Merci, Gilbert. À tout à l'heure pour l'après-match. Allez, hop, sortez l'audition.
Tu te fais virer de ta propre émission.
Oui, tu te fais virer.
Merci allez, beaucoup. Hop. Merci, Gilbert. À tout à l'heure.
Non, on va parler du match de tout à l'heure.
Voilà, parce que lui, il avait un fil conducteur.
Sauf que c'est Gilbert qui dit elle n'est pas tenue cette émission. C'est Gilbert
qui a un petit. Il y a un peu de fatigue, ça arrive, c'est comme ça. 16h56.
Oui, il te virer.
C'est la première. Question du Kikadi du jour. Ah, je vois que tu prends tes notes. T'as assez de batterie parce que la dernière fois c'était la télé de Jean-Michel. Hein. Ça s'était éteint sur l'ordi. T'as travaillé, Eric?
Non.
Ok. On va voir si vous suivez bien le foot et la Coupe du Monde de foot.
Ah oui.
Ouais, quand même. Hier, comment s'appelait le sélectionneur de l'Irak?
Graham Nelson. Oh. Graham Grant.
T'es pas loin.
Grant.
Non, t'as Australien,
Grant
2.
Benson, non?
Presque.
Graham 2.
On arrête cela. C'était le sélectionneur de l'Australie qu'on a affronté il y a 4 ans. Graham Arnold.
Benson, Arnold.
Il y a eu 20 gros plans sur lui pendant le match, les gars. C'est pas bien. Vous avez pas
gros plans et le nom. Ouais, mais c'est pas marqué sur son front.
C'est l'adversaire des Bleus, la Coupe du Monde. Vous n'êtes pas entré dans votre Coupe du Monde.
Rendez-vous à 17h45 pour le Kikadi à gagner. Dans le Kikadi, votre cave à 22. 12 bouteilles entièrement silencieuses de la marque La Sommelière, Kikadi par SMS au 7-32-16. Juste après les infos de 17h, la théorie du catch-up va-t-elle fonctionner pour Ousmane Dembélé? A tout de suite.